Eh oui, merci Monique, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste et Urbi comme Orbi, sans publicité ni sponsor. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie Limon Libertaire, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi, c'est ouvert à 13h, c'est métro République ou Fille du Calvaire, c'est le plus simple. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Antonin Artaud. On a un drôle de boulot, mais bien sûr, attention.
Elle est déjà défaite, celle d'Antonin
Artaud. Et à la technique, bien sûr, Monique, connue dans le monde entier grâce à Onde de Choc maintenant. Elle signe les autographes en sortant. C'est un plaisir de vous avoir, Monique. Virginie Dilecci, bonjour.
Bonjour.
Voilà, de retour d'une ville magnifique, je crois, c'est ça, Palermo, la splendeur. Monsieur Elioshaï.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je ne suis pas grossier en présentant madame, parce qu'il y a deux jours, j'ai reçu un mail.
Oui.
Mail en me disant, là, est-ce que... Là,
bon, on invite qui on veut ici.
J'ai eu un instant de bonté, je t'ai dit oui. Et heureusement qu'elle est là. Cécile, c'est ça?
C'est ça.
Cécile, qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans pourquoi vous êtes là? Il ne dit rien. Il ne me dit jamais rien.
Ah, d'accord.
Non, j'écris dans le mail.
C'était tellement pas clair.
Ah, c'était oui. Comme toujours avec moi, mais.
D'accord. Alors, Cécile.
Je suis là parce que j'ai fait la couverture du dernier livre d'Elioshaï et que je fais des calligrammes et que notamment j'en ai fait plusieurs sur Antonin Artaud et donc j'ai fait quelques travaux comme ça.
Alors pour préciser, il y a deux semaines on a fait une présentation ensemble aux locaux de
l'Harmattan, ouais.
Et elle a fait une exposition entière sur Antonin Artaud, ouais. Avec plein de tableaux,
ouais.
sur différents textes d'Antonin Artaud.
Tout à fait.
Alors, c'est le surréalisme et la fin de l'ère Artaud, Elioshaï.
Oui.
C'est vous, je m'abuse, aux éditions Calligramme. Non, pas
Calligramme.
C'est
Calligramme.
J'ai fait un lapsus avec ce qu'on me disait là. Et c'est préfacé par notre ami.
Patrick. Patrick, il n'est pas venu d'ailleurs chez vous.
Alors, qui, avec les droits d'auteur qu'il fait avec son Genet aux éditions Libertaires, avec son rabot aux éditions Libertaires, s'est acheté un yacht maintenant qui est ancré au port du Pirée. Vous savez pas
voilà,
ça
oui, voilà, oui, c'est ça. Grâce au Genet.
Il vit très bien.
Alors, du coup, il y a impossible de le joindre, il ne nous parle plus maintenant, il vit sa vie en Grèce.
Avant de plonger dans Antonin Artaud, dans ce livre aux éditions de l'Harmattan, voilà. Virginie, j'ai revu un film il y a quelque temps, c'est Quai des Orfèvres. Et dans Quai des Orfèvres, film magnifique d'ailleurs, et on devrait faire un procès à la chaîne qui l'a diffusé, c'est C8 je crois, car c'est entrecoupé par des séances publicitaires. Dans ce qui est un véritable scandale. Et outre Jouvet, qui est absolument sublime, dedans, il y a Charles Dullin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du rôle de... Quelqu'un l'a vu, que les Orfèvres, là, non?
Non, oui, il y a très longtemps.
Voilà. Et Charles Dullin fait le rôle d'un vieux satyre. Il est avec sa bosse, son manteau, là, et qui promène les jeunes femmes pour les faire photographier chez une photographe qui est sa fille, d'ailleurs. Et il est là, il est absolument sublime. Et j'ai pensé à l'histoire que vous nous avez racontée la dernière fois, qui est tellement belle. C'est l'histoire du cheval de... On y va, en vite fait, l'histoire du cheval.
Mais disons que, à l'occasion donc, du débat du cœur qui était joué à l'Atalante, place Charles Dullin, je discutais avec le régisseur du théâtre de l'Atelier, qui m'a appris cette histoire incroyable, que Charles Dullin, qui avait des chevaux, et notamment un cheval qu'il aimait beaucoup, à sa mort, l'aurait enterré place Charles Dullin. Et donc, quand on circule sur cette magnifique place, il y a le cadavre du cheval qui... Voilà, qui continue de nous inspirer.
Est-ce qu'il t'a rendu visite, le cheval
D'une certaine manière, oui. Puisque pour Dullin, pour lui, le maximum possible pour le théâtre et pour l'acteur, c'est un plateau vide, un acteur japonais et un masque et une queue de cheval qui pendouille.
D'accord.
Au mur.
Et voilà. Impossible de ne pas penser à cette histoire quand on traverse la place Charles Dullin.
Oui.
Parce que moi j'ai traversé deux fois depuis, à chaque
et
fois je me
pense.
Suis fait avoir.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, le surréalisme et la fin de l'ère Artaud, c'est le combien de livres que tu fais sur Antonin Artaud?
Le quatrième, je crois, c'est ça. Ouais, je commence à perdre le... Quoi? Il y avait l'anarchiste courroucé, la canne de Saint-Artaud sur le voyage en Irlande, le livre sur Artaud et Elio Gabal, le troisième, et ça c'est le quatrième, et en même temps c'est le, celui que j'ai publié le plus récemment, mais c'est le plus ancien en réalité, puisqu'il est très inspiré par la première partie de ma thèse, justement sur les rapports entre Artaud et le surréalisme. Bon, ça a bien changé depuis, mais...
Alors, le problème, c'est que je ne savais pas comment commencer cette émission, et comme je suis un grand lâche, j'ai soumis ton livre à ce que j'appelle une conscience naïve.
D'accord.
C'est-à-dire quelqu'un qui débute là-dedans, qui est déjà bien, bien féru, comme ça. Et je lui ai posé le problème simple. Je lui ai dit, mais est-ce que Artaud peut être surréaliste? Est-ce qu'il est surréaliste? Attends, tu vois, non, est-ce qu'il est, il est surréaliste? Est-ce que le rapport Breton et Breton-Artaud est un rapport qui est conciliable ou pas? Et cette personne qui va à la serre, mais avec une naïveté absolument claire, m'a dit non, m'a dit, tu comprends, il y en a un qui est du côté de la raison, l'autre n'est que du côté de la folie. Et elle a vu les choses comme ça. Et moi, je me suis dit, tu peux intervenir quand tu veux, bien sûr. Et je me suis dit, oui, mais elle a raison, parce que ce fameux problème, raison et folie, il y a quelqu'un qui est très, très pointu, ce qui est Michael Lowy, après je lirai, dans L'Étoile du Matin, qui pose quasiment le problème comme ça. C'est-à-dire le rapport de Breton avec la raison.
Oui.
Vas-y.
Mais non, c'est bien, parce que est-ce que le surréalisme est du côté de la raison de
oui,
la
oui, oui, bien sûr.
Là, c'est peut-être la question qu'on peut poser.
C'est ça.
Après, qu'est-ce que le surréalisme aussi? Il y a tellement de surréalismes différents que...
Tu reproduis une phrase dans ton texte, et je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Naville, hein, tu me corriges, qui dit, enfin, quand le surréaliste, c'est Breton. Ou c'est Artaud qui dit ça, je ne sais pas.
Ça doit être sûrement Naville qui a dit ça.
C'est Naville qui dit ça.
C'est pas Breton. Artaud qui aurait dit
voilà.
Ça.
Et tu te demandes si dans toute l'attitude de Breton, c'est, à l'époque, c'est conciliable avec la folie d'Artaud, justement.
Non, mais le problème du surréalisme, c'est déjà que le surréalisme n'est qu'un mot à la base. Il est récupéré par le capitalisme en ce moment. Ouais. Je veux dire, chacun a eu à son image du surréalisme. En tout cas, en ce qui concerne le surréalisme historique, c'est-à-dire cette naissance de jeunes gens qui ont créé un mouvement à cette époque-là, ce qui est vrai, c'est que Artaud, dans cette première période des prémices du surréalisme, en tant que mouvement surréaliste, parce qu'avant il y avait aussi autre chose, Artaud avait un rôle principal dans cette aventure.
Oui, tout à fait, et on peut dire aussi que celui qui a réellement vécu le surréalisme dans ses dimensions les plus extraordinaires, c'est Antonin Artaud, c'est lui qui a gardé la flamme jusqu'au bout. C'est bien de ça dont il est question aussi dans son ouvrage.
Oui, du surréalisme d'Artaud, mais moi je pense pas qu'il y a un surréalisme. D'ailleurs, sur le terme du surréalisme, il y avait déjà une bataille entre Breton et Gaulle, je crois, sur qui va prendre le terme du mouvement, parce que le terme est d'Apollinaire. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je pense à Cécile, parce qu'Apollinaire, il faisait exactement des calligrammes.
Ces calligrammes, ils sont pas
bien alors, sûr. Du coup, j'étais très touché qu'elle participe à cette couverture, parce que c'était un hommage aussi à Apollinaire qui avait lancé... Et ce qui me touchait dans ce tableau-là, c'est que c'est exactement les dernières phrases de mon livre dans ce calligramme-là. Parce que c'est des...
Et c'est également les dernières phrases que Artaud a écrites dans ses carnets.
Oui, voilà, c'est les dernières phrases de Artaud dans ses carnets, mais dans ce livre aussi, c'est le début de la conclusion aussi. Je ne sais pas si je t'avais dit...
Oui. Donc ma conscience naïve, là, n'est pas si naïve comme ça, parce que moi, la semaine dernière, c'est là que je vais en arriver. J'ai fait une émission, c'est avec Alain Ruscio, historien marxiste-léniniste, qui a fait un très bon livre qui s'appelle « Aragon et la décolonisation ».
Oui.
Et on a eu cette discussion, on n'était forcément pas d'accord, etc. Comment c'est Aragon, homme qui s'est avéré très rapidement un homme de pouvoir, un homme de grand écart, bon, avait aussi avec le surréalisme. Et pourtant, Virginie, Aragon est un surréaliste à l'état pur. Les textes d'Aragon au départ sont absolument surréalistes et magnifiques. Je veux dire que moi, en lisant tout ça, en étant confronté au surréalisme, il ne s'agit pas de faire du papa Freud et la petite semaine, je te rassure, Ilios. On s'aperçoit qu'on n'a pas que le côté psychanalytique ou psychiatrique ou psychologique de chacun n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire que ce qu'est Breton, ce fils de la petite bourgeoisie, très mal arméen, ouais. Et en fin de compte, pas très en osmose théoriquement avec Aragon, fils de la petite bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, il sait pas qui est son père, et chacun a un compte à régler avec sa propre histoire.
Bon, Artaud aussi, là,
Artaud, c'est
son
ça,
côté
je veux
bourgeois
dire.
Aussi, je veux dire.
Oui, c'est ça que je veux te dire.
C'est pas non plus Mais bon, après, pour faire un mouvement littéraire, je pense qu'en général, malheureusement, c'est un peu les bourgeois qui initient ce genre d'initiative. Mais bon, après, ils ne sont pas restés dans la culture bourgeoise.
Tu dis déjà un mouvement littéraire au départ, ça ne se veut pas un mouvement uniquement littéraire. Hein.
Oui, ça ne se veut pas, mais ça l'est quand même. Je veux dire, après, il faut
Mais au départ, c'est un mouvement qui... C'est là que le surréalisme se serait fait avoir. Il s'est fait avoir en étant récupéré comme un mouvement artistique ou un mouvement littéraire.
Oui, un mouvement de révolution de l'esprit ou une révolution tout court. Mais bon, après, c'est tellement vague, la question de la révolution. Si on fait... Mais... Je sais pas, Virginie, est-ce que tu as quelque chose à dire ?
Voilà.
Je repartirai du titre, évidemment, quand j'ai vu passer le nouveau livre d'Ilios Chahi... J'avais lu son précédent, ses deux précédents, celui sur l'Irlande, qui est vraiment très bien, et aussi celui qui forme une sorte de biographie d'Artaud, et qui est aussi très, très passionnant, dont la tentative qu'a Ilios d'embrasser l'infini, j'allais dire, avec Artaud. Bon, le titre m'a tout de suite un peu raidie. Parce que le surréalisme et la fin de l'ère Artaud, évidemment, fait écho au livre de Paul Thévenin, Artaud et la fin de l'ère chrétienne. Donc il y a
d'Artaud, pas de Paul Thévenin.
Bien sûr, mais...
Le surréalisme et la fin de l'ère chrétienne, c'est d'Artaud.
Tout à fait, mais c'est aussi un livre de Paul Thévenin au sujet de ces questions-là, et notamment de la question de l'automatisme en poésie, qui est justement à la base... d'une première dispute entre Artaud et Breton sur la question de l'automatisme. Donc quand j'ai vu ce titre, sur le moment, je me suis un peu raidie, parce qu'évidemment, la fin de l'ère Artaud, c'est quelque chose d'assez violent pour quelqu'un comme moi. Au-delà de ça, donc, dans ce livre, Ilios prend vraiment le sujet à bras-le-corps, et c'est un sujet des plus passionnants. Et qui nous passionne encore aujourd'hui, j'allais dire, dans l'époque qu'on est en train de vivre, avec la guerre à nos portes, etc. Les questions d'engagement concret dans les partis, ou encore récemment les attaques des tableaux, comme celui de Van Gogh, par des militantes écologistes, etc. Tout fait écho dans cette première histoire surréaliste, qui n'a pas perdu de sa fraîcheur et qui, je trouve, répond à toutes les questions qu'on peut encore se poser aujourd'hui.
Ben on est en plein dans le sujet, c'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui. Ma conscience naïve, je vais y revenir. Dans cette introduction qu'a fait Patrick, il dit cette phrase, non seulement que tu es grec et Artaud est né en Grèce.
Non, il n'est pas né en Grèce.
Non, attends, tu liras la...
Sa grand-mère,
c'est ça, il est d'origine grecque, d'accord. D'origine
grecque. Qu'est-ce que c'est la Grèce avant
Il était comédien, mais... c'est-à-dire que tu es comédien, ça t'aide à mieux comprendre Artaud, à mieux saisir Artaud. Il le dit dans la préface. Alors, soit tu l'as écrit pour lui dire que ça ne va pas, ou tu te... Il le dit.
Oui, bon, après, c'est très gentil de la part de Patrick. Le fait que je sois comédien et que j'ai incarné Antonin Artaud sur scène avant, je pense que ça m'a aidé à l'approcher d'une façon peut-être plus, je dirais pas vécue, mais j'ai un autre rapport, j'ai pas un rapport avec Artaud qu'intellectuel, ça c'est sûr, j'ai un rapport... je l'ai incarné, je l'ai vécu sur scène, ça a duré longtemps, ça m'a atteint. À un moment donné, j'ai arrêté d'être sur scène et de jouer Artaud parce que je voyais que c'était dangereux sur moi. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu ma thérapie en faisant ces livres-là. Oui, inconsciemment peut-être, mais après, je sais pas, c'est peut-être mieux aux autres de faire ce genre de...
Virginie, toi, alors, bien placé pour répondre là.
Oui, mais ça m'intéresse beaucoup ce que dit Ilios, puisque c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai moi-même joué des textes d'Artaud, et justement, c'est l'occasion d'aborder, par exemple, cette question du fait qu'on n'incarne pas Artaud pour moi. Et donc, c'est peut-être à ce niveau-là que je sens, dans les positions d'Ilios, et notamment dans sa conclusion, des différences. C'est-à-dire que, à la fois, Ilios fournit un travail considérable avec Artaud. Il essaye au final de peut-être trouver une sortie parce que peut-être l'empreinte d'Artaud a, à trop peser peut-être dans son parcours, je ne sais pas. Il cherche une sortie. Bon, il nous dit qu'il fait un nouveau livre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui.
Mais
c'est pas comme ça qu'on va m'en sortir. Mais...
Voilà. Je veux dire, sur un plan théâtral, on n'incarne pas Artaud. Et par exemple, moi, je me dis pas comédienne, je me dis actrice parce que j'ai lu Artaud et voilà, je n'ai pas l'impression de l'incarner. Donc là, après, on va toucher à des questions de.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs. Moi, je me dissocie, et dans tous mes livres, je crois que c'est très clair, qu'il y a un Ilios et un Artaud qui est très différent. Et je dirais même que je suis presque un anti-Artaud sur beaucoup de positions.
Surtout dans ta conclusion.
Oui, la conclusion est très dangereuse. On va y revenir.
Ah, mais tu vas y passer. Mais dans tous mes livres, j'ai ça.
On ne parlera pas de Guénon, mais tu vas y passer, je te promets.
Non, mais sur la conclusion, le côté, je suis très critique envers Artaud dans tous mes livres. Et ce n'est pas envers Artaud que je suis critique. Je suis plus critique envers moi qui parle avec Artaud qu'avec Artaud. Mmh. Si on lit attentivement ce que je dis, je suis presque... je justifie plus ou moins Artaud par rapport à moi, et je suis même injuste envers moi et Breton, parce que je pense que je ressemble plus à Breton qu'à Artaud quelque part, et ça, j'assume. Et quand je suis critique envers Breton, c'est en étant critique envers moi-même par rapport à Artaud, qui est très différent de moi, et c'est justement pour ça que je joue un peu avec ça, mais voilà, ça c'est mon côté un peu comédien que j'ajoute un peu dans mes livres. Mais il y a aucun moment, même quand j'ai incarné Artaud,
oui,
j'ai pris pour Artaud,
bien sûr,
où j'ai senti. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Mais je ressens ton besoin de te.
Il y a un ressenti.
De te dissocier.
Mais il y a un ressenti plutôt organique que tu as eu. Je crois que c'est ton rapport que tu as eu avec Artaud. Je veux dire, quand on est comédien, on a un rapport organique sur l'auteur.
C'est ce que me disait, alors c'est pour continuer avec ma conscience naïve.
Oui,
voilà,
c'est
oui,
bien,
je sais qu'elle est emmerdante, mais elle est comme ça. Hein. Et ben, qui me dit, Artaud du côté du corps, et Breton est un intellectuel. Bon, c'est, elle est toute jeune, elle commence son voyage. Mais effectivement, le problème du corps, quand tu dis, c'est au début de ton livre, je crois, quand il rêve d'un corps sans organes, par exemple, ça ne concerne absolument pas le corps de Breton, qui est un corps musard. Que si tu lis le phénomène de le pas perdu ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui se promène dans la légèreté d'être.
Oui, mais il ne faut pas réduire ça, parce que Breton, c'est quand même un être charismatique. Et je crois que ça dépasse le côté uniquement intellectuel. Je veux dire, tout le monde a aimé Breton de son vivant, et tout le monde l'a détesté en même temps, mais il y a un côté qui dépasse l'intellectuel.
Je te parle de quelqu'un qui débute et qui fait cette brusque séparation. C'est brusque séparation.
Oui.
T'arrives à comprendre que Breton, marchant dans les rues de Paris, tôt ou tard, va adhérer au Parti communiste parce que c'est dans l'air de temps. T'as du mal à comprendre que quelqu'un qui se veut un corps sans organes va pouvoir accepter le matérialisme historique.
La deuxième partie, oui. Ouais. Sur la première partie, il ne faut pas juger le communisme avec les yeux d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Parce qu'à l'époque,
c'est pour ça que ta phrase est fausse,
vraiment cru.
Ta phrase est fausse de tout à l'heure en disant que le surréalisme est récupéré, etc. On est en 1926-27. Hein. C'est un
moment. Je dis aujourd'hui, il est récupéré.
Oui, mais bien sûr, tout est récupéré. La petite parenthèse, quelqu'un me disait un jour, ce n'est pas le surréalisme qui est récupéré, c'est l'objet surréalisme.
Je suis tout à fait d'accord.
Voilà. Voilà. Parce que le surréalisme est là, si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est très compliqué, le surréalisme.
Mm-hmm.
Très compliqué. Et c'est là, on va écouter. Et
j'ajouterais que si le capitalisme n'avait pas récupéré l'objet surréaliste, comme vous dites, personne ne s'intéresserait peut-être au surréalisme aujourd'hui et à cette aventure du début des années 20. Je ne sais pas. C'est une question. C'est une interrogation.
Ouais, ou peut-être, quand on voit que l'ancienne directrice du CNPF, je ne sais plus comment elle s'appelle, se vante d'avoir une des plus grandes collections d'objets dada ou d'objets surréalistes, là on s'inquiète. Hein, tout à l'heure, je disais, on va écouter après un peu de musique, si Monique veut bien. Je vais simplement lire où je disais que le côté psychanalytique des choses. Moi, c'est une nouvelle lecture que je fais du surréalisme par rapport à chaque être. Hein. C'est un texte d'Artaud, mais tout le monde le connaît, tu le connais, Virginie, aucun problème. Surréalisme et révolution. J'ai participé au mouvement surréaliste de 1924 à 1926 et je l'ai accompagné dans sa violence. J'en parlerai avec l'esprit que j'avais à cette époque et je vais essayer pour vous de ressusciter cet esprit qui voulait être blasphématoire et sacrilège et qui y est parvenu quelquefois.
Mais dites-vous que cet esprit est passé. Il appartient à 26. Et si vous réagissez, ne réagissez qu'en 26. Le surréalisme est né d'un désespoir et d'un dégoût. Et il est né sur les bancs de l'école. Beaucoup plus qu'un mouvement littéraire, il a été une révolte morale, mon cher Ilios. Le cri organique de l'homme, l'héroïque de l'être en nous contre toute coercition. Et là, ça tombe. Et d'abord, contre la coercition du père.
Oui.
Au 01 43 71 89, ah oui Monique, sur Radio Libertaire, je précise que Patrick Schlinder, qui a fait la préface à ce Le surréalisme et la fin de l'ère Artaud, n'a jamais touché un rond aux éditions Libertaire, il vit dans un gourbi à Athènes. Salut Patrick, à toi. D'accord, vous vouliez intervenir ?
Oui, parce que tout à l'heure, Ilios, on parlait de ce que ça faisait que de travailler sur Artaud, et en fait... T'expliquais, on n'en a jamais parlé entre nous, mais tu évoquais le fait que en l'incarnant, tu avais senti que il y avait quelque chose de dangereux pour toi là-dedans. Et c'est vrai que, enfin, j'y pensais parce que d'une façon ou d'une autre, je suis pas du tout comédienne. Mais mon travail, c'est d'écrire et, enfin, c'est d'écrire de le geste de l'écriture, je veux dire. Et quand j'ai fait les calligrammes à plusieurs occasions en travaillant sur Artaud, c'est quelque chose que j'ai senti très profondément. Notamment, j'ai travaillé sur la conférence au théâtre du Vieux Colombier, donc un de ses derniers textes qui pour moi est son texte le plus fort et qui a une force absolue parce que on sent sa fatigue, on sent son épuisement et en même temps je trouve qu'il y a presque une joie qui s'en dégage que je trouve très forte. Mais le fait de Artaud dangereux, je pense que c'est quelque chose qui est vrai et qui est absolument, enfin qu'il faut vraiment prendre en compte quand on l'approche un peu, ouais.
Mais je compléterais que il y a une période où il devient un peu dangereux.
Ouais.
Et après, quand on s'y penche vraiment dedans, il y a presque un aspect guérisseur, c'est-à-dire que moi, grâce à Artaud, je me suis beaucoup plus intégré dans les choses que avant. Et c'est bizarre, c'est.
J'avais commencé il y a quelque temps une série un diptyque que j'ai jamais réussi à terminer pour l'instant précisément à cause de ça, avec d'une part les lettres de 36 et 37, et d'autre part, les lettres au docteur Ferdière, qui pour moi sont la guérison des lettres de 36 et 37, parce qu'elles ont une lumière qui intervient, qui se dégage de ça, que je trouve absolument magnifique. Mais justement, donc, pour les lettres de Rodez, c'était pour moi, c'est un souvenir heureux que d'avoir travaillé dessus, mais en me replongeant dans les textes de 36 et 37, il y a toujours un déséquilibre et quelque chose que enfin, j'ai toujours l'impression, même maintenant, en tant qu'adulte, quand je les relis et que je m'y replonge, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument vertigineux et qui ressemble vraiment à marcher sur un cratère, définitivement.
Il y a aussi par rapport à ma conscience naïve qu'on a parlé du corps malade, ouais. C'est-à-dire c'est un vecteur. On a deux, on trouve comme ça, c'est Nietzsche, qui a été malade toute sa vie. Et Nietzsche, de façon très, très drôle, il en appelait à la grande santé, alors qu'il a
toujours été... Marteau aussi, il apparaît.
Marteau, oui, bien sûr. Voilà.
Parce que mon prochain livre, justement, c'est sur ce sujet-là.
Et elle me disait, on ne voit pas Breton malade. Tu vois ce que vous voyez ce que je veux dire? On ne voit pas Breton malade, on voit Breton effectivement charismatique, capable d'organiser un groupe, d'organiser une activité. Du côté d'Artaud, c'est pas ça.
Moi, j'ai toujours Breton.
Oui, on ne le voit pas malade, tant mieux pour lui, mais on ne le voit pas seul non plus.
Oui, oui bien sûr.
Mm. À la différence d'Artaud.
Voilà.
Mm. Là, je vais faire l'avocat quand même de Breton. C'est quand même quelqu'un qui voyait des choses que les autres ne pouvaient pas voir forcément. Et je veux dire que s'il a choisi Artaud, c'est pas non plus... même s'il n'était pas malade, il savait voir quand même des choses que les autres ne voyaient pas. Je pense que si l'aventure surréaliste a pris cette dimension, c'est sûrement grâce à Breton à la base. Et si elle avait continué peut-être avec Artaud... ça aurait pas duré, c'est certain.
Oui, c'est pour ça que je vais revenir au point de départ. Est-ce qu'il est surréaliste? Bien sûr qu'il est surréaliste, c'est peut-être le seul surréaliste, etc. Mais ça n'a pas... on n'est pas dans le mouvement surréaliste qui implique le phénomène politique. Il y a une grande mode actuellement au niveau de la récupération, c'est d'avoir viré tout le côté politique du surréalisme pour en faire une forme de mystisme, de mysticisme, alors que le côté politique du surréalisme est très important.
Oui, et... ce que je disais avant, mais c'est un peu l'idée de mon précédent livre sur Elio Gabal, c'est que peut-être on rejette le côté politique du surréalisme, mais s'il n'y avait peut-être pas ce côté politique du surréalisme, cette histoire courte, hein, parce qu'il ne faut pas dire que Breton est comme Aragon, il s'est vraiment donné à ça, mais Breton, il n'a jamais intégré... mais s'il n'y avait pas eu cette histoire politique, je pense que peut-être aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Artaud... je pense qu'il aurait disparu... parce que si on, c'est ce que je dis dans la fin du livre, si on se penche sur Artaud, de son vivant, il a presque toujours raté, mais il a raté là où les autres ont raté dans l'absolu, ayant réussi dans le moment. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Pas du tout, non, mais.
Non. Non, mais je veux dire, par exemple, le communisme à l'époque, il y avait vraiment un espoir. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir du communisme, mais. Artaud était contre le communisme, alors aujourd'hui on se rappelle plus d'Artaud que certains écrivains du communisme. Sur la psychiatrie, c'est pareil, il y avait un espoir sur la psychiatrie de l'époque, les électrochocs et tout ça. Aujourd'hui, on sait que ça ne fonctionne plus, en tout cas pas de la façon dont on croyait à l'époque. Et Artaud est le contre-courant de cette image d'électrochoc. Alors du coup, les ratures d'Artaud font son succès d'une certaine façon aujourd'hui, parce que tout ce qui l'a précédé a raté et l'époque a rejeté cette ancienne histoire. Voilà, c'est à peu près ce que je veux dire.
Pour moi, c'est totalement inentendable de parler de ratage d'Artaud. C'est quelque chose.
Non, mais raté socialement dans la société de l'époque. Je veux dire, la Félicie.
Parce que pour moi, celui qui rate, c'est Breton en mettant la révolution surréaliste sous contrôle du Parti communiste. Justement, j'ai utilisé ce texte de la révolte contre le père. Bon, d'évidence, le Parti communiste était une forme de père. Et
on est
ça,
tout à fait d'accord.
Artaud l'a tout de suite vu.
Mais à l'époque, c'était pas le cas encore. C'est ce que je veux dire.
Idiot. Mais bien sûr que c'était déjà le cas, puisque lui-même l'a vu.
Où je voulais en arriver. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé depuis des années, comme ça, alors j'aime pas le terme, hein, de façon psychanalytique, ce qu'ont été ces surréalistes. Chacun avait en soi quelque chose que tu peux pas prendre, on va venir au père, hein, tu peux pas prendre l'histoire d'Aragon quand tu sais que sa sœur s'est fait passer pour sa mère, qu'il était le fils du préfet de police Andrieux, qu'il l'a appris à l'âge de 20 ans, Aragon a un rapport à l'homme, au pouvoir.
Mais Aragon, absolument... c'est pas breton, on est
non,
d'accord.
Non, mais tout ça monte dans un... dans une complexité qu'on n'a pas réussi à analyser jusqu'ici. On n'a pas voulu voir
oui,
jusqu'ici,
mais,
voilà.
Mais moi déjà, j'ai pas de chapelle, et c'est marrant parce que là, j'ai l'impression de faire l'avocat de Breton alors que je suis prêt à le critiquer dans tous mes livres et être ironique envers lui, alors que là, c'est pour nuancer que... Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je crois que c'est dans le livre, c'est ce que je dis quelque part. Sur ça, je pense qu'on est tous d'accord.
Tu exposes très très bien toute la complexité de cette double... cette double voie qu'a pris le surréalisme, une voie qu'a prise Artaud, et qui est une voie qui va garder, je pense, tout son feu révolutionnaire, parce que tu conclus par « faut-il encore lire Artaud ?» et on aurait pu conclure, pour moi, avec « faut-il encore lire André Breton ?»
Oui, bien sûr.
Qui me paraît beaucoup plus juste par rapport à tout ce que tu as déployé avant cette conclusion. Mais je voulais dire surtout que donc le surréalisme a tout de suite été double, voilà, et donc il est resté double. Et c'est
double, c'est même réducteur. Moi, je pense qu'il y a des milliards de surréalisme.
Évidemment, mais il y a quand même dans la fracture Artaud-Breton.
Mais il y a quand même des scissions qui sont plus nettes que d'autres, c'est-à-dire le matérialisme et le mysticisme.
Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle le mysticisme c'est plus question, mais là, je pourrais...
Ça, c'est le reproche de ton livre, c'est que tu aurais dû descendre là-dedans, comme sur le mot, comme la métaphysique. Hein. Il fallait éclairer ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Lorsque Breton écrit et signe ascendant, il a effectivement un sens au niveau de la transcendance, où on peut s'inquiéter par rapport aux choses. Il n'est pas ce matérialiste qu'il a voulu être. Breton n'a jamais pu être totalement matérialiste.
Mais il n'a jamais voulu être un matérialiste, voilà. Breton, je pense pas.
Tu sais, en adhérant au Parti communiste, au matérialisme historique, on est forcé de passer par là. C'est impossible autrement.
Seulement, en fait, la démarche d'Artaud est une démarche qui ressemble plus à celle du grand jeu. Là, j'écris beaucoup sur Roger Gilbert Lecomte et Daumal. Roger Gilbert Lecomte encore plus que Daumal, quelque part. Et c'est l'idée qu'il y a un jeu à jouer qui est très dangereux. Et Breton, il ne va jamais jouer ce jeu. Mais après, qui a raison dans les faits, je ne sais pas. Moi, j'ai pas la réponse à ça. Mais Artaud, comme Roger Gilbert Lecomte, sont allés beaucoup plus loin et n'ont pas eu de réserve ou n'ont pas été économes. Ils ont tout donné dans cette idée de révolution de l'esprit, alors que Breton était très économe. Mais c'est grâce à Breton que certaines choses ont survécu, même si c'est Breton qui, je suis d'accord avec vous, n'a pas le bon rôle dans cette histoire.
Moi, je me fais l'avocat du diable parce que j'ai une grande tendresse.
Oui, c'est marrant parce que je pensais qu'on allait faire l'avocat inverse.
Un intérêt puissant pour Breton. De ça, je m'amuse beaucoup.
Mais un intérêt dans quel sens, positif, négatif?
Tout ce qu'il a été, ses contradictions, sa tristesse, son ratage et tout m'intéresse. Oui. Tout m'intéresse là-dedans. Voilà. Petite parenthèse sur le grand jeu, je l'avais dit dans une émission ici, etc. C'est que, par exemple, Roger Vaillant, La raison. C'est la raison. Va régler son compte avec Gilbert Lecomte toute sa vie. Gilbert Lecomte a visage d'angle et Vaillant est très amoureux de Lecomte, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et comme il est assez vachard, il va poser un problème intéressant que tout le monde peut poser. Il dit à un moment donné, comme Vaillant rentre dans la résistance active, il fait le coup de feu, etc., c'est très bien. Et Vaillant dit, avec Lecomte, il est en train de fumer et se piquer. Est-ce que vous croyez qu'on va arrêter les chars allemands comme ça? Ça paraît naïf, mais le problème est posé, c'est tout le problème qui est là. C'est le même problème qui est là. Et là, Virginie, je vais aller dans votre sens sur l'actualité, la pleine actualité. La semaine dernière, j'ai donc fait cette émission sur Aragon et la décolonisation, et je n'avais pas le texte sous les yeux. Alors, je vais vous lire un texte très rapidement, un texte d'Aragon de 1931.
Alors, nous sommes...
Allez-y, monsieur Chaillet, qu'est-ce que c'est ?
1931.
Non, non, le texte d'Aragon qui est une grande rupture dans le surréalisme.
Ah, c'est la gâteuse. Ouais, c'est avant.
Alors.
D'accord. Je l'ai mis dans le livre ou je l'ai pas mis ?
Non, pas du tout.
Oh là là.
Alors, on va essayer. Feu sur Léon Blum. Feu sur. Boncourt, Fronsard et Déa, feu sur les os savants de la démocratie. On ne sait plus ici ce que c'était le chômage, le bruit du marteau, le bruit de la faucille, monte de la terre, est-ce bien la faucille, est-ce bien le marteau, l'air est plein de criquets, cressades et caresses, URSS, 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 gloire, gloire à la dialectique matérialiste, l'armée rouge, gloire à l'armée rouge, une étoile est née sur la terre, une étoile aujourd'hui mène vers une bûche de feu. L'histoire menée en laisse par la troisième internationale. Le train rouge s'ébranle et rien ne l'arrêtera. URSS, 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 URSS. Inconscient oppositionnel, il n'y a pas de frein sur la machine. Hurle écrasé, mais le vent chante. URSS, URSS, URSS. Debout les damnés de la terre. SR, SR, SR. Le passé meurt, l'instant embraye. SR, SR. Les roues séances, le rail chauffe. SSR. Le train s'emballe vers demain. URSS, URSS. Bon, voilà. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'on est en 31. On est en 31. 27, c'est l'adhésion au Parti communiste breton et des surréalistes. C'est ça ou pas ?
Oui, il faut que je le. Non, c'est avant, je crois, non ?
C'est une soirée, c'est vrai, 27.
27.
Et, 27. Et Artaud est directeur du troisième numéro de la Révolution surréaliste en 26.
Ça, c'est avant, oui.
En 26.
C'est 25.
En 26. Non, pour vous dire que tout ça...
La parution, c'est 25, je crois, le troisième numéro de la Révolution surréaliste.
Ou 25 ou 26, même. Tout ça a été très vite. Et c'est les mêmes. C'est les mêmes.
Oui,
c'est les mêmes. Ils se croisent et c'est les mêmes. Est-ce que vous croyez qu'un texte comme ça, Aragon, le porte pas en lui 5 ans auparavant ?
Non, parce que 5 ans auparavant, Aragon, il disait « Artaud, c'est le grand dictateur qui va changer tout ça ». Mais je pense que... Bon, moi, je pense que Artaud, il a beaucoup participé à ce que Breton s'intéresse au Parti communiste. Je suis convaincu, parce que comme Artaud, il prenait énormément de place au sein du mouvement surréaliste, et au début, c'est Breton qui... Parce qu'il a des problèmes aussi personnels, je crois, de couple et tout ça, il lui a dit « Vas-y, fais tout ce que tu veux ». Et Artaud prenait des places, et ça commençait à marcher, le troisième numéro de la Révolution surréaliste, qui regroupait tous les surréalistes autour de lui. Et là, je pense que Breton, il a eu peur, mais comme il voyait qu'il ne pouvait pas suivre cette direction de révolution de l'esprit absolu, parce que ce n'est même pas une question de mysticisme ou de métaphysique, c'est une question où on va dans l'absolu, et le surréalisme dépasse... Sur le côté Rimbaud, Artaud était beaucoup plus fort là-dedans parce qu'il y avait un côté plus incarné de cette révolte. Et c'est, je pense que là, pour reprendre un peu les surréalistes de son côté, je crois que c'est pour ça qu'il s'est dit il faut s'approcher un peu plus du Parti communiste et de faire une révolution plus tangible et moins philosophique. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, mais...
Virginie, non ?
Certainement. Disons que la dimension théâtrale d'Antonin Artaud, avec ce que ça peut avoir de véhémence et de tragédie, etc., déplaisait fortement
à
Breton, la tonalité. Donc, Artaud avait déjà commencé. Disons que ce qui est intéressant chez Artaud, c'est cette double voix, toujours, poésie et théâtre fusionnés. Et donc, pour Breton, cette dimension, bien qu'il n'était pas hostile à la notion de scandale, au contraire, mais à la limite même plus qu'Artaud, c'est ça qui est très troublant pour moi. Parce que Breton...
Est-ce que la différence qu'il y a entre Breton et... l'idée du scandale entre Breton et Artaud, est-ce qu'il n'y a pas chez Breton un désir de scandale social ?
Si.
Voilà. Et que chez Artaud, c'est un scandale ontologique.
Oui, métaphysique, ouais. Artistique.
Non, mais je vais vous répondre. Par exemple, si aujourd'hui, on demandait à Artaud comment il va régler le conflit en Ukraine, par exemple. Alors, il a écrit un texte, poème surréaliste qu'on envoie à Mongolie. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, un petit texte d'Artaud. Il dit que Artaud, pour arrêter le conflit ukrainien en ce moment, il aurait écrit un poème surréaliste tellement magnifique, qui transforme tellement notre façon de voir les choses. Il a envoyé un exemplaire à Macron, un exemplaire à Poutine, et ses dirigeants ont relu ce poème, et il serait tellement bouleversant qu'ils auraient arrêté la guerre et arrêté de penser de cette façon. Je veux dire, la révolution d'Artaud rentre dans cette dimension-là. Et c'est vrai que Breton n'y croyait pas du tout, parce qu'il croyait à une révolution plus palpable, plus concrète. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou...
C'est clair, Virginie. Pendant que vous
réfléchissez... Mais la révolution d'Artaud, c'est une révolution par la poésie et par la capacité du poète de transformer notre façon de voir et nos attachements...
C'est exactement la définition de Breton. Bon, oui, je vous laisse, bien sûr, bien sûr. Mais tout à l'heure, Virginie, après...
Elle passe par le théâtre, je reviens toujours à ça, mais c'est fondamental.
Par le corps.
Mais pas seulement, c'est-à-dire pour Artaud, qui a aussi lu ce qui se passait en Russie, et notamment et en URSS, du côté de la naissance, de la mise en scène, à travers, par exemple, Meyerhold. Mais c'est fondamental. Donc lui, il pense que, justement, la poésie, donc, il pense que les mots sont des termes qui arrêtent la pensée, qui arrêtent le mouvement de la pensée, etc. Et donc, le livre est une tombe, donc il passe par le théâtre. Et donc là, c'est pas seulement le corps, c'est l'espace, c'est la sensation, c'est la lumière pour faire entrer dans les esprits une charge, une peur, une transformation.
Qui n'est pas très compatible avec l'idée de groupe qui était celle de Breton.
Oui et non, puisque oui, tout à fait, puisque à l'intérieur du théâtre, en travaillant avec des acteurs, avec des musiciens comme Varèse ou etc. De fait, il y a groupe et il y a expérimentation même des idées concrètes. Et sans compter les spectateurs qui aussi font partie absolument de ce qui est en train de se jouer. Donc ça, c'est un outil révolutionnaire que Breton. Ne prend pas en compte, puisque pour lui, il a toujours une idée que c'est du spectacle pour les bourgeois.
Mmh. Mais on va revenir au point de départ. Il y a le phénomène de la raison. De la raison chez Breton. Breton sait très bien que s'il veut avoir une action sociale et politique, il faut passer par autre chose que ce que propose Artaud. Mmh. Voilà, je crois. Mais tout à l'heure, là, vous
disiez... qui lisait Breton? Qui lisait Breton?
Oui, bien sûr.
À l'époque, tout le monde lisait Breton, je crois. C'est pas tellement Artaud. Hein.
C'est quand même Gallimard qui le publie, dès le départ.
Oui.
Mais tous ces gens-là, on va revenir à un terme, tous ces gens-là sont des littéraires qui tournent dans le monde artistique et dans le monde purement institutionnel. Hein. Ils ont des rapports avec Gide ou des choses comme ça.
Mais est-ce que Gallimard, à l'époque, c'était le Gallimard d'aujourd'hui?
C'est pas le Gallimard d'aujourd'hui, mais c'est déjà un bon Gallimard.
C'est un bon Gallimard.
Mais avant qu'on prenne un tout petit peu de musique, vite fait, toujours mon poème Front Rouge, tout à l'heure, en 31. Virginie dit, avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre aux frontières, il y a dix lignes, on est à Aragon. L'intervention devait débuter par l'entrée en scène de la Roumanie. Sous le prétexte, par exemple, d'un incident de frontière entraînant la déclaration officielle de la guerre par la Pologne. Et la solidarisation des États limitrophes. À cette intervention se seraient jointes les troupes de Wrangel qui auraient traversé la Roumanie. À leur retour de la conférence énergétique de Londres, se rendant en URSS par Paris, Ramzi, je ne connais pas son nom, organisait la liaison avec le Togprom par l'intermédiaire de Ryan Bouchinski, qui entretenait des rapports avec le gouvernement français en la personne de Loucheur. Dans l'organisation de l'intervention, le rôle directeur appartient à la France, qui en a conduit la préparation avec l'aide active du gouvernement anglais. On se croirait dans le bordel qui est actuellement par rapport à l'Ukraine. Voilà. Et Aragon met ça en plein milieu d'un poème. Mais si on regarde bien de l'air, on est en plein dans ce qui se passe actuellement. Merci Monique.
Quand tu fais lien avec lui.
01 43 71 89 40. Et bon, elle est d'accord, est tombée d'accord hors antenne, c'est pas mal. Maintenant, on va pouvoir se foutre sur la gueule.
Oui, là, il faut un peu, parce qu'on va s'ennuyer.
On va refaire une bonne séance de boxe, hein, d'accord. Vite fait, il y a une chose, Virginie, qui est très importante chez Arto, ça va être son départ pour le Mexique.
Oui.
Hein, où il va découvrir les...
Les Tarahumara.
Voilà. Ouais. Hein.
Et où là, il y a vraiment une résolution, mais qui ne sera pas immédiate, hein, qui interviendra vraiment au moment de la fin de son internement à Rodez, et qui éclatera à travers sa dernière émission de radio, et à travers le fameux poème « Toutou Gouri, le rite du soleil noir ». Tu veux que je développe un peu là-dessus ?
Oui, bien sûr. Ouais. Non.
Ce qui est très intéressant, puisque tout à l'heure, Ilios parlait aussi du grand jeu, c'est que justement, Arto, à un moment donné, il est entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas qu'il est entre les deux, il trouve entre les deux une voie singulière. Il se retrouve d'abord à Mexico, et là, il fait ses fameuses conférences, etc. Et il évoque le surréalisme, et en des termes, je trouve, très juste et très fort. Hein. On lira peut-être un extrait de « L'homme et son destin », etc.
Surtout que le public, c'était des communistes en dessous
qui
parlaient. Il faut préciser.
Donc là, c'est des textes qui résument bien, finalement,
et ils attendaient une autre conférence de la part d'Arto. Ils étaient presque déçus.
Tout à fait. Et ensuite, Arto part à la rencontre des Indiens Tarahumara. Mmh. Et là, comment dire, d'une certaine manière, c'est sous l'impulsion, je trouve, de la poésie du grand jeu qu'il a cette intuition. On retrouve dans les textes comme les Rois Mages ou le rite de l'Atlantide des accents de la poésie de Roger Gilbert Lecomte. Mais ensuite, lui, il fait son aventure. Et cette aventure, je l'avais lue. Mais quand j'ai vu les films, et là je le dis vraiment encore une fois, de Raymond Carrasco et de Régis Hébreau, qui ont filmé les Indiens Tarahumara dans la Sierra à l'occasion d'une vingtaine de voyages qu'ils ont fait entre 78 et 90, j'ai compris la puissance du voyage pour Antonin Artaud et sa réalité concrète. Mmh. Il découvre à travers les Tarahumara vraiment la voie révolutionnaire.
Alors, très bizarre, il essaye, tu me dis si je me trompe, hein, quand même de leur imposer une grille de lecture marxiste.
Au Tarahumara.
Oui, il dit, c'est simple, je ne sais pas où c'est, ils ont été plus loin que Marx, dans le phénomène de la distribution, dans le phénomène comme ça.
Mais dans une sorte de communisme naturel.
Ils ont été plus loin que Marx au niveau de la distribution, etc. Donc il a quand même, il essaye quand même, lui, de revenir en arrière et de partir sur les bases, qui étaient les bases de réflexion du surréalisme en 26-27.
Mais les attentes étaient, qu'est-ce qu'on fait avec la distribution et tout ça? Et le public à qui il parlait au Mexique, c'était que des marxistes. Alors c'est normal parce que Artaud a été invité pour parler du surréalisme presque en tant que mouvement marxiste à l'époque. Tout alors c'est normal qu'il parle de ça en disant que voilà les marxistes sont en train de détruire les tribunes comme les Tarahumara et tout ça, et que la vraie révolution se trouve dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser.
Virginie, est-ce qu'il n'y a pas un côté d'une, là on va reprendre une naïveté par d'Arto à ce moment-là, c'est-à-dire que en adhérant au parti, quand Breton adhérait, etc., c'est quelque chose de très vaste, très grand, ça, c'est très grand, très vaste, et là c'est quand même un phénomène très réduit, cette population. Combien il y a de personnes dans cette population?
Tarahumara, ouais. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est bien ce qui lui fait dire. Quand il est parti au Mexique, il était en train de... Il venait d'écrire un scénario qui s'appelait La conquête du Mexique. Et donc, il avait l'idée de prendre tous les moyens du cinéma au sens d'Abel Gance, c'est-à-dire des moyens démesurés, pour les donner au théâtre et pour montrer dans La conquête du Mexique une sorte d'antagonisme fondamental entre Cortés et Moctezuma. Donc, il avait encore cette idée de révolutionner les masses par le théâtre. Ensuite, quand il se retrouve avec les Tarahumara, dans ces conditions qu'on connaît, puisqu'il a jeté toute sa drogue, donc il est dans un état vraiment de terrible, de faim, de manque, etc. Et que la Syrah, c'est quelque chose de très compliqué, il faut l'arpenter. Et puis avant de pouvoir accéder au rite du Peyote, ça demande, et Raymond Carrasco dans ses films l'a montré, ça demande vraiment de gagner leur conscience. Et c'est un peuple qui a su conserver ces rites en les rendant extrêmement secrets et cryptés. Lui, en 28 jours, il arrive à atteindre le rite du Peyote. On se demande comment il a fait. Il a réussi à les défendre auprès des catholiques et des instituteurs qui tentaient de les contrôler et d'interdire leur rite. C'est ce qu'il raconte. Et ensuite, il comprend en fait qu'il ne s'agit plus de sauver tous les hommes, il le dit dans un texte, mais de sauver d'en sauver quelques-uns sur un plan évolutionnaire, c'est assez puissant, d'en sauver quelques-uns, ceux qui ont réussi à conserver
mais c'est pas forcément la masse qui a raison, je veux dire.
Et ça, c'est après son passage chez les Indiens.
C'est-à-dire, si les Indiens pensent d'une certaine façon qui est plus juste, même s'ils sont minoritaires, il faut peut-être s'inspirer d'eux plutôt que de s'inspirer de la masse qui pense de façon
plus simplement, juste. Simplement pour dire que le projet de Breton, même si Breton était incapable d'entrer au Parti communiste, etc. Et
oui, mais Breton voulait transformer le Parti communiste.
Non, oui, mais c'est quand même...
C'est pas naïf.
On tombe à chaque fois dans les naïvetés. Alors, est-ce que le poète n'est pas entièrement impolitique dans les deux cas? Est-ce qu'on peut en arriver là,
Breton, est-ce que c'est aussi naïf que ça, puisque au moment le communisme n'était pas non plus la machine qu'on connaît aujourd'hui.
Non, t'as par rapport à l'histoire du Parti communiste, une grosse machine où les surréalistes sont pris pour des rigolos dès le départ.
Ça, c'est ce que je dis d'ailleurs.
Oui, c'est dit.
Mais je pense que c'est clair. Mais sur le fait que Breton a cru que, c'est-à-dire Breton a fait quelques compromis, mais Breton il était complètement contre. La lignée de Barbus dès le début.
Bien sûr.
Je veux dire, ça, il n'y a pas eu. Et il a fait quelques compromis, mais il n'en a pas fait tant que ça non plus.
Parce qu'il est sorti rapidement.
Il est sorti rapidement parce qu'il a vu qu'il ne pouvait rien faire là-dedans. Voilà. Mais il y a un moment où il s'est dit, les Barbus et tout ça vont se casser la gueule, et c'est moi qui va prendre le relais, et après je vais faire ce que j'ai envie et ce que je pense. Alors,
mais on voit très mal Breton militer la section du Gras du Parti communiste. C'est de la franche
rigolade. Je pense pas qu'il l'aurait fait d'ailleurs.
Non, mais c'est là qu'il est inscrit.
Aragon l'a fait dans les textes qu'on voit. Oui, lui, il a joué ce jeu, mais Breton, il n'a pas joué.
Ce que je veux dire, Virginie, par rapport à la naïveté dans le livre d'Ilios, il y a deux passages là. dans une lettre à Jean Paulhan, le 23 avril 1936, il écrit : il y a des maîtres d'école, ce qu'on appelle ici les ruraux, qui vont devant les masses indiennes prêcher l'évangile de Karl Marx. Voilà. Mais devant l'évangile de Karl Marx, les masses indiennes, soi-disant incultes, sont dans l'état d'esprit de Moctezuma en face des prêches enfantins de Cortés. À travers quatre siècles, la même éternelle erreur blanche n'a cessé de se propager. Et en bas, il dit, les Tarahumaras, quand on leur donne de l'argent, ils ne disent pas merci, car donner n'est pas un devoir, c'est une loi de réciprocité physique que le monde blanc a trahi. C'est comme si les Tarahumaras disaient, en obéissant à la loi, c'est à toi-même que tu fais du bien, je n'ai donc pas à te remercier. C'est une naïveté totale.
Non,
au sens du terme.
Ça renvoie directement à ce vers de Rimbaud, la charité est la clé. Charité, cruauté, pour moi, c'est les deux faces d'une
naïveté. Mais naïveté, dans quel sens ?
Y a un côté extrêmement judéo-chrétien.
Mais non,
dans la dernière phrase, sur la bonté et la charité, ah si.
Mais Artaud, il a été quand même...
Non, parce qu'il ne s'agit pas d'une charité chrétienne, il s'agit d'une charité cruelle.
Et ça veut dire
ça peut être une
charité... Vas-y, oui, pourquoi ? Ça veut dire quoi ?
Parce qu'elle elle serait inscrite, comme chez les Tarahumara, dans une culture, c'est-à-dire où justement il n'y a pas de division de classe, par exemple, et c'est un même peuple, donc inscrit dans un même mouvement de vie. Et donc, il y a une circulation des données de la vie, de la survie, qui se fait naturellement.
Je suis tout à fait d'accord, mais la vision de la charité chrétienne dont Artaud est proche de ça. Et parce que c'est pour ça, parce que nous, on a peut-être en tant que... parce qu'on vit dans un autre siècle, mais la vision qu'avait de la charité chrétienne Artaud était plus ou moins celle-là. Et c'était, il a été baigné un peu dans ça, c'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas Artaud, il faut le reconnaître.
Et ça apparaît aussi beaucoup dans les lettres. Les lettres de Rodez, c'est quelque chose, c'est un aspect qui revient très souvent, la question de la foi, et on parle constamment pendant ces lettres-là. Oui. En 45 et 46.
Oui. Mais il faut préciser que la chrétienté d'Artaud n'est pas celle du prêtre
ouais, bien sûr,
du côté, c'est plus celle de Jacob Baum ou de Maître Edgar et ouais. tout ça.
Alors,
c'est
quand on situe justement cette époque, il faut toujours resituer la torture dans laquelle Artaud se trouve et qu'il a abjecté. Absolument toute oui, cette dimension. Donc, Artaud, c'est dans un mouvement, donc évidemment, on peut difficilement extraire une petite partie. Il faut voir ça dans un mouvement. Donc, il a abjecté, et puis je crois qu'il faut le prendre aussi à rebours. On voit bien où il est arrivé et qu'il a. Il a bien dit qu'il était athée, il a hurlé dans les derniers cahiers d'Ivry. Enfin, je veux dire, on ne peut pas le suspecter.
Il a été, il n'a pas été, mais je suis d'accord qu'il a été
athée. Après, il a traversé, c'est-à-dire qu'il n'a pas rejeté de manière dogmatique. Il a traversé et il les a brûlés. Il faut brûler les formes, il faut brûler les pensées.
Oui.
Il faut, donc, en ce sens, il n'est pas intellectuel.
Il faut brûler les formes, il faut brûler les formes. Enfin, pensez, il faut brûler les dogmes, je suis tout à fait d'accord. Mais la vision qu'Artaud avait de la chrétienté, qui est celle des grands mystiques du XVe siècle, est justement la même, brûler les formes, brûler les dogmes. Et
certainement.
Seulement, à l'époque, ils utilisaient le mot Dieu pour dire les mêmes choses, mais c'est pour ça que la question de Dieu est hyper complexe et on ne peut pas la réduire. Mais la vision qu'Artaud de Dieu n'est évidemment pas celle d'un prêtre qu'on trouve à l'église qui va donner le mot.
Moi, j'ai,
Dieu est un con et un lâche.
Dieu est un grand lapin, pour commencer.
J'ai entendu dans un film de Godard, il y a quelques jours, Vivre sa vie. Je l'aime bien.
Prévert, Dieu est un grand lapin.
C'est bien aussi.
C'est pas mal, non? Ouais. Mais si on regarde les surréalistes qui viennent tous d'une culture bourgeoise, pour beaucoup, beaucoup, avec une formation religieuse.
Breton, il a eu une formation religieuse.
Je crois que oui, ils ont été, aussi, ils ont tous baigné là-dedans. Ils ont eu du mal à s'extraire de ça. Je reprends bien sur Aragon parce que je suis dedans actuellement là. Quand Aragon, dans les métaphores d'Aragon, même s'il est OPC, même s'il est, même s'il se dit athée et matérialiste, on trouve toujours les mêmes des métaphores chrétiennes.
Mais sur ça Aragon. Fait partie des métaphores de l'époque aussi en général, je pense.
Oui, mais je pense qu'il
y a des métaphores qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qu'à l'époque on utilisait beaucoup plus.
Mais je pense qu'un athée véritable, fin 19e, un truc comme ça, il passerait pas par là. Celui qui n'a pas une culture religieuse, il passerait pas par là. Quand Aragon écrit...
L'Immaculée Conception, des choses comme ça.
Pourquoi les grands athées du 19e siècle n'avaient pas une culture bourgeoise et
chrétienne? Oui, mais quand Aragon dit que l'ombre de l'homme est celle d'une croix, il arrive pas à quitter la croix. Mais non, ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure avec de la mauvaise foi.
Parce que des croix, les Tarahumara avaient des croix aussi, c'est pour ça que je voulais dire.
De la mauvaise foi.
Qu'est-ce que c'est la croix c'est... Mais bon, après, ça serait.
Abolition de la croix, Artaud. Abolition de la croix. Oui.
Mais pour venir.
Mais si je puis me permettre.
Bien sûr, permettez-vous.
Pour la question du communisme et de Breton et d'Artaud, je trouve que. Et du surréalisme. Cette histoire de la prise de parole de Breton à l'occasion de l'hommage rendu à Artaud au théâtre du Châtelet.
Bien.
Bon. Ce texte a été donc publié ensuite dans La Clé des Champs. Il comporte une note dans laquelle Breton explique qu'Artaud l'a toujours accusé finalement de n'être pas venu avec des mitraillettes le délivrer au Havre. Mais la manière d'Artaud, qui est extrêmement belle et moi qui me touche profondément, quand Artaud dit à Breton « Je vous ai vu venir avec des mitraillettes me libérer de mon enfermement au Havre », c'est bouleversant en fait. Et c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de plus surréaliste que ça?
Oui. Mais
c'est un sommet du surréalisme pour moi, vraiment. Alors là, donc, le communisme, il est où? Alors Breton dit oui, on a en face de nous un Artaud qui est un voyant au même titre que Nerval l'a été, etc. Et donc il n'est pas fou, il est voyant. Non, ça va plus loin que ça. Artaud, là, c'est le cœur qui éclate. Et Breton ne comprend pas. Il dit, bon, Artaud, il a cru que j'étais venu, mais non, en fait, je ne suis pas. C'est absurde.
Oui, mais en fait, il ne faut pas oublier quelque chose, ça revient un peu à ce que je fais en ce moment, sur mon travail d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Breton aurait pu être psychiatre, déjà. Et je ne sais pas si les gens le savent.
Il a fait des études.
Il a fait des études. Il a fait pendant la guerre un peu de psychiatrie, en tout cas, et il aurait dû en faire aussi durant la Deuxième Guerre mondiale, selon le docteur Ferdière. Il y a un moment où il dit qu'il aurait dû exercer la psychiatrie. Et je crois qu'il n'a pas voulu ou ça ne s'est pas fait pour une raison ou une autre. Mais Breton, il est fasciné par la folie, mais comme le démontre aussi son texte sur Nadja, je pense qu'il a toujours peur de ça. Et ce qui est très intéressant, parce qu'il en parle...
C'est vrai.
Il y a une discussion deux jours avant entre Artaud et Breton, et on en trouve des traces, un peu dans les textes dissimulés d'Artaud, dans des lettres et tout ça. Et il y a un moment donné... parce que toute la révolution de l'esprit d'Artaud, et c'est ce qui explique en partie sa folie, parce que c'est beaucoup plus complexe.
Non, là, ce que je veux désigner, c'est la mauvaise foi de Breton. C'est-à-dire que quand Artaud lui dit « Je vous ai vu venir me délivrer avec des mitraillettes », et que Breton nous dit « Bon, Artaud nous dit quelque chose là qui n'a pas réellement existé », c'est terrifiant, parce que là, Artaud fait preuve de surréalisme, mais aussi il démontre que l'engagement communiste, quand il s'agit de faits et d'amitié, hein, quand Artaud s'est retrouvé enfermé à l'asile, où étaient ses amis surréalistes et communistes ?
Breton n'était pas là.
Attends, oui,
il non, mais pas bien là. Sûr, mais je veux dire,
il est parti aux États-Unis, il a fait sa vie à Disneyland. On savait que c'était pas à l'époque, mais ça aurait pu.
Virginie, là, c'est la bonne transition quand vous dites où était le communisme. Faut pas oublier, alors là, c'est marqué dans votre livre, monsieur Edios, que Breton va se tourner vers Trotsky.
Oui.
Il va se tourner vers. Donc il va quand même épouser tout le matérialisme et la lecture de Trotsky de la Révolution. C'est-à-dire, c'est évident quand tu. Voilà.
Oui, il a fait. Ils ont écrit un texte ensemble.
Il a manifesté de la fiarie. Là-dedans, au niveau de l'illusion, moi je suis persuadé que Trotsky ne comprenait pas grand-chose à Breton. Ça, j'en suis absolument sûr. Non, et dans le sens inverse.
Il se servait d'un autre d'une certaine façon, on est d'accord.
Voilà. Je veux dire que ces deux langages, c'est mon point de départ, hein, qui, en fin de compte, si on regarde bien, sont complètement divergents. Et toujours avec cette chose qui est mon point de départ, c'est le phénomène de la raison. J'ai pas trouvé d'autres termes. Et avant un petit peu de musique et après on conclura, je vais encore faire la provocation avec Roger Vaillant, dont j'y suis.
Je
vais rien hésiter. Alors, ça c'est... Les surréalistes furent en leur temps le sel français de la France. Ça veut dire le sel révolutionnaire, l'esprit de la révolution. Ils poussèrent l'irrespect jusqu'à ses plus extrêmes limites. C'est une position difficile à tenir parce qu'elle aboutit aux contradictions types. Mépriser jusqu'à la raison, mais c'est la raison qui provoque et soutient le mépris. Systématiser l'irrespect, mais l'irrespect est la négation de tout système, etc., etc. Ça ne pouvait être qu'un moment, mais certes le moment le plus pathétique, le plus bouleversant de la pensée, le moment convulsif, la pensée atteint sa plus grande intensité au moment où elle se détruit dans la contradiction.
Non, mais c'est la raison qui soutient le mépris. C'est la phrase, si j'avais mis que cette phrase-là, ça explique que le livre, ce que je voulais dire. C'est pour ça que même cette... c'est pour ça que j'ai dit même avant que, en partie, si la folie, si cette notion de révolution de l'esprit telle que la pensée Artaud existe, c'est parce que peut-être Breton était un peu plus raisonnable. Et c'est peut-être triste à dire.
Qu'en termes charmants, ces choses-là sont enfin dites.
D'une certaine manière, il aurait pu être un garde-fou. Mais il ne l'a pas été jusqu'au bout, puisque, enfin, du moins, c'est ce que lui reproche Artaud, finalement. Il a laissé aussi Nadja.
Il y a Nadja, oui, voilà, il y a le problème de Nadja.
C'est-à-dire que ce rôle de garde-fou, en effet, aurait été vraiment la dimension positive qu'on pourrait reconnaître à cette attitude de Breton.
Virginie, avec toute la sympathie...
Elle a failli.
Voilà. Toute la sympathie que j'ai pour Breton, quand Breton revient en 1945, la première chose qu'il fait, c'est de donner une interview au Figaro. il donne une interview au Figaro, il revient avec ses poupées au pied, il parle de ça ou pas, il se fait avoir par le Figaro, parce que le Figaro, juste au-dessus de son interview, met une photo de la statue du maréchal Foch. Alors, c'est-à-dire que Breton, il est là, il veut revenir, il veut être dans ce système, et de façon vacharde, je crois que c'est dans votre livre, Monsieur Ilioz, vous dites que Artaud vient de sortir d'asile. C'est pas du tout.
C'est le même jour presque.
Oui, c'est ça, c'est le même âge.
C'est deux jours après.
Il y en a un qui veut rentrer dans le
social. Il y a une super discussion, c'est ce que je voulais dire avant, il y a une super discussion entre Artaud et Breton, où il y a Artaud qui. Parce que là, toute la philosophie. Parce que pour moi, la philosophie d'Artaud, c'est la philosophie du grand jeu qui met en place. Bon, je l'expliquerai dans un autre livre, mais tout commence de là. Et Artaud va au bout des choses, et à un moment donné, Artaud, il dit. Breton, il faut se battre contre les masses. C'est ça, il lui dit, ma révolution, c'est de me battre contre les masses. Et toute cette folie, c'est que le monde est mauvais, je me bats contre tout le monde. Et Breton, il lui dit, c'est bien beau ça, mais contre les masses et contre tout le monde, on perd toujours. Et c'est là qu'Artaud est déçu. Il n'est pas déçu pour la question du Havre, il est déçu par cette phrase de Breton. Et c'est là qu'il commence à pleurer. Et c'est là qu'Artaud dit justement la phrase « J'ai vu qu'un petit bourgeois... j'ai toujours cru à Breton, mais là, j'ai vu qu'un petit bourgeois à ce moment-là. »
Terrible. Terrible. Mais... C'est bien qu'on en soit arrivé là. C'est très bien. Alors,
Moi, là où je veux en venir, parce que c'est facile qu'on en parle de cette façon et qu'on soit critique envers ça, mais est-ce que nous quatre, ici, on était à la place de Breton, qu'aurait-on fait en face de Nadja ou en face d'Artaud?
Mais ça, c'est bon pour n'importe quelle situation, Ilioz. Hein.
Oui, mais moi, par exemple, je ne ferais pas le malin de dire que je serais peut-être...
Mais non, il ne s'agit pas d'ouvrir un tribunal. Il s'agit de dire que dans la question surréaliste, qui d'Antonin Artaud ou de Breton est surréaliste, on pourra dire les deux. Moi, je dirais, bien sûr, c'est Antonin Artaud. Et pour moi, cette histoire de mitraillette et d'asile en est exactement la preuve. Mais on peut en trouver d'autres. Voilà.
Mais dans ce cas-là,
ça ne veut pas dire que Breton n'est pas intéressant. Mais à la question, faut-il encore lire Antonin Artaud? Je répondrai par faut-il encore lire André Breton?
Alors, je vais finir avec Antonin Artaud, j'écris encore 5 livres dessus.
Mais je ne t'attaque pas toi, Ilioz. Mais je veux dire.
C'est un petit bout de lecture ou pas?
Comment?
Un tout petit bout de lecture. Oui. Ça vous tenterait de faire avant Yann Ignatius? Oui. On va finir comme ça. Hein. Okay. Donc, petite parenthèse avant, vite fait. Après, je rappelle votre livre. On écoute Virginie et on écoute Varèse et on se quitte comme ça. Je veux dire qu'aussi bien que, par exemple, Breton va. Pourquoi j'ai une sympathie très grande pour Breton? Voilà, on va finir comme ça. Pourquoi? Il va toute sa vie, il va traîner une mauvaise conscience. Son plus grand truc, c'est Jacques Vaché, l'homme le plus intelligent que j'ai rencontré, c'est Jacques Vaché, ça veut dire qu'il a très mauvaise conscience. Là, j'ai lu Haïtien Roger Vaillant, toute la vie de Roger Vaillant, qui sait sa mauvaise conscience, c'est Gilbert Lecomte. Hein, et moi, je pense que quelque part, on y va, je pense que dans la mauvaise conscience de Breton, il y a aussi Artaud.
Ah, mais il le cache pas, d'ailleurs. Alors, je crois qu'il le dit.
Voilà. Mon cher Ilioz, alors le surréalisme et la fin de l'ère Artaud aux éditions de l'Harmattan.
De l'Harmattan.
Avec une belle préface de notre camarade Patrice Linder.
Et le dessin de.
Bien sûr, le dessin. Merci, c'était adorable d'être venu. Vous pouvez revenir. On va écouter un tout petit peu, et après on va enchaîner avec Ionisation sur Radio Liberté 89.4.
Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois.
Oui, merci. Voilà. Ou alors un extrait de L'homme contre le destin, qui était une des conférences mexicaines. J'ai parlé hier soir du surréalisme et de la révolution. J'aurais dû dire la révolution contre le surréalisme, le surréalisme contre la révolution. J'ai essayé de définir de quel dégoût profond, de quelle angoisse vitale et qui parvenait mal à s'orienter, le surréalisme français est né. Pour moi, à le considérer dans son essence, le surréalisme a été une revendication de la vie contre toutes ses caricatures, et la révolution inventée par Marx est une caricature de la vie. J'ai estimé que cette fin d'une vie pure, que le surréalisme au début a été, n'avait rien à voir avec la vie fragmentaire du marxisme. Fragmentaire, mais valable provisoirement, mais répondant à un vrai mouvement de l'histoire. Et j'ai dit que Marx, un des premiers, a vécu et senti l'histoire. Mais il y a un monde de mouvement dans l'histoire. Et si l'état d'esprit surréaliste est un état d'esprit dépassé par les faits, le mouvement historique du marxisme est lui aussi dépassé par les faits. Et voici à ce sujet le dernier état de notre pensée. La pensée de la jeunesse française et la pensée des intellectuels éveillés. Le matérialisme historique et dialectique est une invention de la conscience européenne. Entre le vrai mouvement de l'histoire et le marxisme, il y a une espèce de dialectique humaine qui ne concorde pas avec les faits, et nous pensons que depuis 400 ans, la conscience européenne vit sur une immense erreur de fait. Ce fait est la conception rationaliste du monde, qui dans son application à notre vie de tous les jours dans le monde, donne ce que j'appellerais la conscience séparée. Vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Vous savez tous qu'on ne peut pas saisir la pensée. Nous avons pour penser des images, nous avons des mots pour ces images, nous avons des représentations d'objets. On sépare la conscience en état de conscience. Mais ce n'est qu'une façon de parler. Tout cela ne vaut en réalité que pour nous permettre de penser. Pour regarder notre conscience, nous sommes obligés de la diviser, sinon cette faculté rationnelle qui nous permet de voir nos pensées ne pourrait jamais s'exercer. Mais en réalité, la conscience est un bloc, ce que le philosophe Bergson appelle de la durée pure. Il n'y a pas d'arrêt dans la pensée. Ce que nous mettons devant nous pour que la raison de l'esprit le regarde, en réalité est déjà passé. Et la raison ne tient plus qu'une forme plus ou moins vide de vraie pensée. Ce que la raison de l'esprit regarde, on peut dire que c'est toujours de la mort. La raison, faculté européenne, exaltée démesurément par la mentalité européenne, est toujours un simulacre de mort.
Thank you. Une espèce protégée, y a pas de danger qu'elle disparaisse. Ça se reproduit l'hiver, l'été, ça fait pas trop dans la finesse.
Ça a un cœur qui bat tout rouge, pourtant ça tire sur tout ce qui bouge. De tous les côtés des frontières, ça joue aux soldats, à la guerre.
Ça s'éclate à la guérilla, ça FSB, ça CIA. Du plus profond des millénaires, de l'armée de sang et rivière. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution. Espèce de... Ça construit des murs à Berlin, Jérusalem ou Tijuana.
Ça peut pas saquer ses voisins, pour vivre heureux, vivons chez soi.
Ça génocide, ça vocifère, ça apartheid, ça terrorise.
Pour le pouvoir, pour un bout de terre, faut que ça se bastonne, faut que ça se détruise.
Une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un vertébré un peu timbré, un peu truffion.
Genouille, ça prie des dieux, mais faut que ça zigouille dès que ça peut.
Ça inquisitionne sa croisade, ça colonise et ça djihad. À coup de missile, à coup de roquette, ça va faire péter la planète. L'humanité disparaîtra, bon débarras. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un petit bipède au gros cerveau, un vrai champion. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un homo sapiens imbécile, un bon couillon. Un singe qui a mal tourné, qui est devenu cro-magnon. C'est le nom d'une espèce guerrière à l'unisson. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con.
Années du dragon. Ailleurs devine qui débarque à Roubaix pour de bon. Bibi le b-boy, un soir de pleine lune. La cigogne me parachute sans bagage, sans habit et sans thune. À cette époque, Bob Marley dansait encore. En franchise car perpétuer la peine de mort. Moi j'étais ce qu'on appelait un fils d'étranger. Comme disait Fernand Reynaud, on venait manger le pain des Français. Mon père était marchand de fruits et légumes forains. Pour moi c'était surtout le plus grand des plus grands comédiens. Il montait sur scène chaque jour à 6h du mat. Y'a jamais eu de César, il faisait peut-être pas assez d'audimat. Dans son costume tablier bleu casquette. Derrière son étal, il nous faisait son numéro de claquette. Son public, ses clients kiffaient. Un kilo de tomates, le prix d'entrée.
Pas cher. Rien n'a changé. Depuis le jour où j'ai su parler. Maman, s'te plaît. Mets-moi un bon vieux pas parler. Rien n'a changé. Depuis l'époque de la One Love Nation. Peace, unity, love and having fun.
Mes super-héros d'enfance, Marvel Comics, renaissait toujours de leurs cendres, comme le phénix. Captain America, plus fort que les méchants barbares. Les Allemands, les Russes, les Indiens, les Arabes, les Chinois, les Noirs, les Japonais. Plus tard, adolescent, mon idole, c'était Malcolm X. Lui qui avait défié l'oncle Sam by any means. Et Zelda chanter, ça va pas être possible. Moi, des boîtes de nuit, j'ai jamais connu que la porte et le vigile. J'ai appris à écrire loin des bancs de l'école. À l'heure des cours de français, j'étais sur le terrain de basketball. On rêvait tous de s'appeler Michael Jordan. On y croyait dur comme fer. I believe I can fly. Derrière chez moi, chaque soir, c'était la Coupe du Monde. France, Algérie, Clandos, reste du monde. Des matchs de foot qui duraient 5-6 plombes. Pour qu'on s'arrête, fallait au moins que la nuit tombe. On jouait là, au milieu des blocs. Là-haut, à leur fenêtre, nos supporters de choc. Au début, les voisins trouvaient ça sympathique. 3 heures et 3 carreaux cassés plus tard, ils appelaient les flics. Rien n'a changé, depuis le jour où j'ai su parler. Maman, s'te plaît, mets-moi un bon vieux pas parler. Rien n'a changé, depuis l'époque de la One Love Nation. Peace, unity, love and having fun. Là qu'un jour le hip-hop débarque sur notre planète. Aroub et tous les mômes de mon âge sont tombés sur la tête. Breakdance Thomas, moi je dansais comme un robot. Grande gueule, petit bras, j'ai plutôt choisi le micro. Raconter des histoires, c'est tout ce que je savais faire. Sur le devant de la scène, je kiffais à me la jouer gangster. Mon stylo bic, mon revolver. Mon micro Zarma, un lance-missile nucléaire. Saltimbanque, c'est devenu mon métier. J'en profite, conscient qu'ici bas on ne fait tout ce que passer. Je raconte ce que je vois, je vis ce que je raconte. Témoin d'une époque pas banale où seuls les résultats comptent. Je suis un chanteur, un comédien comme le daron. Tout finit comme ça a commencé, l'histoire a du bon. Et quand ma tchotte vient me voir en concert, ça me rappelle quand j'étais minot au marché avec mon père. Rien n'a changé, depuis le jour où j'ai su parler. Maman s'te plaît, mets-moi un bon vieux pas parler. Rien n'a changé, depuis l'époque de la One Love Nation. Peace, unity, love and having fun.
Loi du marché ou loi de la jungle, on se fait tirer à quatre épingles. Flux monétaire, boa visqueux, qui se mord la queue, étouffe la terre. Par l'infamie du FMI, on serre la vis aux affamés. On serre le vis aux plus paumés. Profits à qui profite le crime. Un député décapité, les capitaux choisissent la Suisse. Les capiteux, le faux suicide. De bonnes actions en fonds de pension. Au creux des bourses inassouvies se joue ta vie. Sur les champs de course du CAC 40, l'offre et la demande jamais fâchées. Loi du marché. Ça tourne, ça tourne, ça tourne toujours. Sans faille et sans lézard, sans âme et sans éthique. Ça tourne et ça s'emballe sous film plastique. Et le disque dur, dur, mur sans fin, aux parois lisses, sans prise pour l'humain, sans interstice, où la vie s'immisce. S'avance sans gêne, gens sans sagesse, aux mains moins blanches que les leurs blouses. Même pour la science, le nerf, c'est le flouze. Et l'insouciance toujours de mise. Matière grise sans rien en dessous, les grands labos peaufinent la recette d'un placebo pour la planète. Dealer légal en OGM, ça m'est égal si ça gangrène, pourvu qu'on sème. Prends-en de la graine, deux couches d'ozone en Tchernobyl, sans un atome de science critique. La science nous vend de drôles de vent au creux des veines. Pour quelques sous, tu mens sur tout, savant sans gêne. Ça tourne, toujours, sans faille et sans lézard, sans âme et sans éthique. Ça tourne, et ça s'emballe, sous film plastique. Et le disque dur, dur, mur sans fin, aux parois lisses, sans prise pour l'humain, sans interstice, où la vie s'immisce. Logique de guerre, mais guerre d'espoir, humilitaire et laissé choir. L'humanitaire pauvre compresse, bouton compresse chirurgical. Petit dégât collatéral au but de langage, effet mondial. Découpe du monde à longueur d'onde, médias complices. La dette des Turcs pour la tête des Kurdes, bouc émissaire et mauvaise mine, faux émissaire porté au nu. Soyez bienvenus, il y a du monde au Balkan. Grand vent d'OTAN attise les braises sur le papier. Vrais incendiaires en tenue de pompier. Reconstruction, beaucoup de pognon, nerf de la guerre. Ça tourne toujours, sans faille et sans lézard, sans âme et sans éthique. Ça tourne, et ça s'emballe, sous film plastique. Et le disque dur, dur, mur sans fin, aux parois lisses, sans prise pour l'humain, sans interstice, où la vie s'immisce. Ça tourne toujours, sans faille et sans lézard, sans âme et sans éthique. Ça tourne, et ça s'emballe, sous film plastique. Et le disque dur, dur, mur sans fin, aux parois lisses, sans prise pour l'humain, sans interstice, où la vie s'immisce.
Petite boîte, faites en tiki-taki. Petite boîte, toute pareille. Y a des rouges, des violettes et des vertes, très coquettes. Elles sont toutes faites en tiki-taki. Elles sont toutes, toutes pareilles. Et ces gens-là dans leur boîte vont tous à l'université. On les met tous dans des boîtes, petites boîtes, toutes pareilles. Il y a des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires et des avocats. Ils sont tous faits en tiki-taki. Ils sont tous pareils. Et ils boivent sec des martinis, jouent au golf toute l'après-midi. Puis ils font des jolis enfants qui vont tous à l'école. Ces enfants partent en vacances, puis s'en vont à l'université. On les met tous dans des boîtes et ils sortent tous pareils. Les garçons vont du commerce, puis deviennent pères de famille. Ils bâtissent des nouvelles boîtes, petites boîtes, toutes pareilles. Puis ils règlent toutes leurs affaires et s'en vont dans des cimetières, dans des boîtes faites en